Salut, c'est Steven Jambot de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous m'écoutez en podcast, il va être question de parité dans les médias.
RFI.
Jeudi 6 mai s'est tenue l'édition 2021 des Assises de la parité. Son objectif, discuter de la place des femmes dans le monde de l'entreprise et au-delà. Et dans les médias, alors, vous me direz, bah il y a du boulot. Ce sujet sur les femmes dans les médias, j'y consacre régulièrement des émissions. En mars, on s'intéressait aux femmes qui entreprennent dans les médias.
Là où on est dans une nouvelle génération, c'est que je pense qu'on est des médias féministes créés par des femmes.
En novembre, j'interviewais Lénaïque Bredoux, responsable aux questions de genre du site Mediapart, ou encore Caroline De Haas, qui nous présentait Les Expertes. Vous savez, cette plateforme destinée aux journalistes en forme d'annuaire de femmes spécialistes de tel ou tel sujet.
Alors, je pense que si on veut faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les médias, c'est jamais naturel, en fait. Ça se fait jamais naturellement. Ça nous demande un effort.
Cette semaine, je vais recevoir deux journalistes travaillant dans des médias suisses qui ont mis en place des baromètres de la parité pour mesurer la place des femmes dans leur production éditoriale. Mais d'abord, intéressons-nous à Wikipédia. L'encyclopédie en ligne fête cette année ses 20 ans. À son lancement en 2001, elle suscitait méfiance et critique, mais c'est aujourd'hui l'un des plus grands succès de l'Internet libre, non commercial et collaboratif, mais aussi et surtout l'un des 10 sites les plus consultés au monde. Un des reproches souvent faits à Wikipédia, c'est le fossé des représentations de genre, le peu de notices consacrées à des femmes. Le problème est pris très au sérieux par la communauté des Wikipédiens. Pour en discuter, j'ai appelé une élue au conseil d'administration de Wikimedia France.
Je suis chez moi, je télétravaille comme toujours et j'ai à côté de moi un animal.
Un chat ?
Ouais, alors j'ai deux chats et une tourterelle.
Cohabitent-ils bien ?
Ouais, ça va.
Bon, eh bien c'est parfait, les réglages sonores sont faits pour nous. On va pouvoir démarrer. Bonjour Diane Ranville.
Bonjour.
Vous êtes scénariste, traductrice, enseignante et contributrice de Wikipédia depuis plus de 15 ans et vous organisez notamment des formations et ateliers d'initiation à Wikipédia. Vous enseignez l'art de contribuer sur l'encyclopédie libre et gratuite en ligne. Je le disais en introduction, il y a ce fossé des genres sur la plateforme. Dans sa version française, Wikipédia compte 500 000 biographies d'hommes contre 115 000 de femmes selon le collectif Les 100 pages. Et ce problème, en fait, de représentation est pris très au sérieux par la communauté.
Oui, alors pris très au sérieux globalement par la communauté, par aussi certains groupes qui s'en font le porte-parole de cet enjeu, parce que la communauté, elle est très, très multiple, la communauté wikipédienne. C'est en fait tout un tas d'individus qui sont chacun mus par des motivations différentes, souvent parce qu'ils ont des centres d'intérêt sur lesquels ils ont envie d'écrire. Et c'est notamment justement cette variété qui fait qu'on a certains déséquilibres, puisque les types de personnes qui vont soit être intéressées pour écrire sur une encyclopédie, soit se sentir légitimes à le faire, eh ben, y a des biais dans ce type de personnes. Et notamment, on trouve moins de femmes. Alors, historiquement, aussi parce que éditer Wikipédia, il y avait un côté technique, donc les profils techniques étant moins nombreux chez les femmes, ça pouvait être une barrière, c'est-à-dire le fait de devoir éditer sous forme de code. Ça a été pendant longtemps une barrière. Maintenant, on peut éditer de manière beaucoup plus intuitive, un peu comme sur un traitement de texte, ce qui a baissé pas mal de barrières. Mais oui, la communauté prend cet enjeu à cœur. En tout cas, il y a des, en fait, comme dans le reste de la société, la troisième vague du féminisme a lieu sur Wikipédia comme partout ailleurs et donc les gens prennent conscience de certains biais et donc essayent de les corriger avec comme partout aussi des résistances, des gens qui au départ peut-être parfois comprennent pas les enjeux et puis ou les ressentent différemment et c'est toute cette variété qui permet ensuite de trouver un équilibre.
Je crois avoir lu quelque part que plus des trois quarts des Wikipédiens, donc ces personnes qui contribuent à Wikipédia, sont des hommes. Comment faire justement pour qu'il y ait plus de femmes qui contribuent à Wikipédia ?
Alors c'est une grande question que se pose le mouvement wikimédien depuis une bonne dizaine d'années, je pense. Parce que effectivement, on constate ce biais très profond. Alors déjà, première chose, faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance, qu'il soit accueillante pour tout le monde. Ça, c'est une première chose pour que ça fasse pas fuir les gens qui débarquent et donc notamment les femmes qui débarquent et qui se sentiraient pas les bienvenues. Donc ça, et puis les barrières techniques, et ensuite il y a tout un tas de choses aussi dans la manière de contribuer, parce que par exemple les outils de contribution aussi, les rendre plus fluides, permettre il y a aussi une dimension psychologique, donc d'empowerment à faire, où il faut que les femmes se sentent légitimes à contribuer sur des sujets encyclopédiques. Donc ça, parfois, c'est aussi une barrière mentale. Et donc pour ça, on organise souvent des ateliers, en fait, des ateliers d'initiation qui sont là pour inciter les femmes à s'emparer des sujets, soit de sujets féministes, soit de sujets qui n'ont rien à voir, mais simplement à se sentir légitimes.
Et comment ça se passe justement ? Est-ce que l'idée, c'est de dresser un certain nombre de noms, de notices, de biographies à créer et qui n'existent pas encore ? Ou comment ça se passe très concrètement ?
Alors, en général, dans les ateliers qui sont orientés sur le fossé des genres, sur Wikipédia, on va avoir une thématique de contribution qui sera souvent des biographies féminines. Mais il n'y a pas que les biographies. Alors, il y a les biographies, hein, c'est un gros point, c'est-à-dire le nombre de personnalités représentées. Mais il y a aussi les sujets dits féminins, par exemple. Typiquement, le sport va être beaucoup mieux documenté que d'autres sujets qui sont connotés plus féminins, parce que du coup la démographie des Wikipédiens est très loin de la démographie de la population générale, puisqu'il y a beaucoup plus d'hommes. Vous disiez les trois quarts, c'est presque, je crois, 80%, enfin, même si c'est difficile d'avoir des chiffres, hein, parce qu'on ne traque pas les utilisateurs, on n'a pas des profils sociologiques très précis, donc on est obligé de s'appuyer sur des enquêtes. Mais,
et tous sont bénévoles et contribuent souvent sous pseudo, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Donc on a que des pseudos, donc difficile parfois de deviner le genre de la personne. Et puis effectivement, le bénévolat aussi peut être un frein, parce qu'on sait que finalement, en fait, les hommes, ils ont souvent plus de temps libre parce qu'ils se consacrent moins aux tâches ménagères, ce genre de choses. Et donc, une femme, si elle doit s'occuper des enfants, travailler, et puis en plus trouver du temps pour contribuer à Wikipédia, c'est peut-être plus difficile.
Diane Ranville, il y a un outil qui est géré par la Fondation Wikimedia et qui s'intéresse justement à la question de la représentation des femmes dont vous vouliez nous parler.
Oui, alors cet outil s'appelle Humaniki, et en fait c'est la fusion d'outils précédents qui ont été d'ailleurs conçus par des bénévoles et qui permet de mesurer en fait ce fossé des genres, le gender gap en anglais, et en direct vous pouvez voir sur cet outil le nombre, enfin la quantité de contenu dédié aux femmes. Donc c'est très intéressant parce que en fait l'encyclopédie Wikipédia elle est très protéiforme et c'est parfois difficile de mesurer ce qui s'y trouve, et donc grâce à cet outil-là on a pu avoir une vision plus fine ces dernières années et même ces derniers mois, hein, il a été finalisé récemment dans sa dernière version, et du coup ça permet de voir, là je vois en direct qu'on a 18% des biographies qui sont dédiées aux femmes.
Ce qui reste encore peu.
Ça reste peu, mais quand je disais les mêmes chiffres, enfin quand on me posait les mêmes questions il y a 3-4 ans, eh bien, on était qu'à 16%. Donc on a gagné 2%, 2 ou 3%, ce qui est quand même beaucoup, sachant qu'en plus, quand on compare à d'autres encyclopédies, Encyclopédie Universalis, ou d'autres encyclopédies qu'on peut trouver en ligne, Wikipédia est le site le mieux placé, en fait, sur Universalis. Je crois que c'était 12 ou 14%. Donc finalement, 18%, c'est pas si mal.
Donc vous qui nous écoutez sur RFI ou en podcast, si vous avez du temps et une connexion Internet, même depuis un téléphone, eh bien vous pouvez contribuer à l'encyclopédie libre et gratuite en ligne Wikipédia. Merci Diane Ranville.
Merci.
Vous êtes élue au conseil d'administration de Wikimedia France et je rappelle l'adresse de Wikipédia, c'est wikipedia.org. À bientôt.
Au revoir.
L'atelier des médias.
Mettre en place des outils pour mesurer la présence des femmes, la Fondation Wikimedia l'a fait. Mais des médias aussi. Je vous propose de profiter de retours d'expérience de deux journalistes travaillant pour deux médias suisses. Le quotidien suisse Le Temps, puis le site d'information ID News. Commençons par Le Temps. Bonjour Éléonore Soulcerre.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe au Temps. Alors depuis janvier 2018, votre journal a mis en place un baromètre de la parité mesurant la place des femmes dans le journal. À quel moment vous êtes-vous dit qu'il fallait un outil pour mesurer tout cela ?
Alors c'est un peu plus ancien en fait que 2018, ça remonte à disons 2016 où une de nos journalistes, Aurélie Coulon, qui n'est plus au Temps mais qui travaillait là, s'est lancée dans une étude sur les auteurs et autrices de tribunes extérieures dans le Temps depuis 1998, parce qu'on est né en 1998. On était un jeune journal donc il n'y avait pas un énorme corpus à balayer et donc elle s'est rendue compte que nous n'arrivions pas à dépasser le nombre de 27% d'autrices dans les tribunes extérieures du Temps, donc tout ce qui est opinion, tout ce qui est prise de parole extérieure. Mais on avait quand même fait des progrès puisque en 1998 on était plutôt autour de 15%. Donc là il y a eu une première prise de conscience et on a essayé à ce moment-là de mettre sur pied une sorte de base de données d'expertes pour inciter les journalistes à appeler davantage de femmes lorsqu'ils faisaient des enquêtes ou dans leur travail, voilà.
Et alors vous vous êtes dit que vous alliez créer un outil et un outil qui allait mesurer plusieurs choses et pas seulement le nombre de femmes auteurs de tribunes.
Voilà, donc en fait, en 2018, nous avons donc fêté nos 20 ans. Et nous avons imaginé de suivre un certain nombre de causes, en fait, pendant cette année-là. Et une des causes était l'égalité. Et comme ça coïncidait aussi avec un grand essor du data journalisme, on s'est dit qu'on avait peut-être des données à exploiter pour mesurer justement la présence ou non des femmes dans nos pages. Donc, c'est Jean Abbiatessi qui s'est lancé à l'époque, qui est lui aussi un ancien du Temps, mais qui n'est plus là, qui s'est lancé à l'époque dans la réalisation d'algorithmes qui permettaient de mesurer de nouveau dans les tribunes, mais aussi dans les papiers, simplement, la présence des femmes. Donc, on a cet outil est toujours en fait il marche toujours. Nous avons une page que nous appelons le paritomètre, qui mesure en fait dans les 50 derniers articles la présence des femmes. Alors c'est un peu aléatoire, le système essaye de deviner si on parle de femmes ou d'hommes, en fonction des prénoms notamment. Donc parallèlement à ça, il y a eu un décompte manuel qui s'est fait et qui essayait de chaque mois de voir qui étaient les auteurs et autrices d'édito, donc ça c'était interne à la rédaction, et de nouveau qui étaient les auteurs et autrices de tribunes. Et puis, on mesurait aussi la présence des femmes dans les photographies qu'on publiait et parmi les expertes sciences. Mais tout ça, c'est un décompte qui se faisait à la main. Et c'était extrêmement dévoreur de temps, à vrai dire. Donc, la personne qui s'en occupait, Jean l'a fait longtemps. Puis, ça a été ensuite Florian Delafoy qui, en octobre l'année passée, a dit « j'en peux plus ». En plus, l'aiguille bouge assez peu. Donc, on lui a dit « écoute, voilà ». Nous sommes dans une période compliquée, tu as toute l'indulgence de la rédaction et on va garder nos algorithmes, essayer de les améliorer et puis peut-être trouver d'autres moyens que d'assassiner de travail un journaliste déjà par ailleurs fort occupé. Donc,
alors,
voilà.
Alors justement, on a l'impression qu'au cours de ces années, la barre des 50% a parfois été tutoyée mais jamais franchie. Comment est-ce que cela se fait ?
En effet, c'est vrai qu'une des raisons peut-être du léger découragement éprouvé par notre journaliste qui faisait ce décompte manuel, c'est la grande difficulté à faire bouger en fait les lignes. Il y a une sorte d'inertie comme ça, qu'on arrive à combattre par des efforts très volontaires, temporairement, et qui parfois, comme ça a été un peu le cas avec la crise du Covid, eh bien, on a tendance à repartir dans les limbes parce que d'autres préoccupations viennent se mettre au premier plan. Donc c'est au fond une sorte de petite conscience, voilà, d'une difficulté, de quelque chose qu'il faut sans arrêt recommencer. Voilà, c'est une sorte de petit phare comme ça dans notre travail éditorial que de temps en temps on regarde et on se dit « ah oui, là il faut qu'on recommence et qu'on recommence encore à manifester notre effort et à tenter d'avancer ».
Pour les gens de médias qui nous écouteraient et qui auraient envie de faire la même chose dans leur organisation, avez-vous des conseils à leur donner ou en tout cas, par quoi faut-il commencer ?
Moi je dirais comme ça que c'est vraiment tenter de sensibiliser chaque journaliste individuellement à ce genre de problème. Alors, c'est difficile, hein. Il y a des journalistes qui sont dans des domaines où, qui sont encore très, très masculins. Donc, on ne peut pas leur demander tout le temps d'avoir des intérêts. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans l'Élysée, par exemple. Je pense qu'il y a surtout Emmanuel Macron comme phare. Donc, ce n'est pas une femme. Voilà. Donc, il y a des problèmes de ce genre-là. Mais il y a eu une expérience intéressante qui a été faite au temps par celle qui, d'ailleurs, était responsable à l'époque, en 2018, de cette cause égalité, c'est Mathilde Farine qui avait lancé une page qui parlait de technologie et de Suisse. Ça s'appelait Suisse 4.0 et elle faisait systématiquement l'effort d'une parité, en fait, parmi les gens qu'elle interviewait. Elle y est pratiquement parvenue. Elle évaluait, en fait, le temps que ça lui prenait à environ un quart d'heure supplémentaire de recherche pour trouver la bonne interlocutrice. Et donc, en fait, elles existent, ces femmes. Donc, il faut faire l'effort de les chercher. Mais c'est vrai que, je pense, tant qu'il y a pas une prise de conscience à titre personnel de journaliste. Évidemment que ça doit être porté par la rédaction en chef, mais il y a quelque chose qui est très individuel quand même, puisque le journaliste est la source de la production d'informations. Et c'est chaque fois un travail d'y repenser, de remettre ça sur le métier. Moi-même, je suis rédactrice en chef adjointe, donc je commande des éditos et j'essaye toujours de garder une sorte de discipline et de me demander s'il n'y aurait pas une femme qui pourrait écrire cet édito plutôt qu'un homme. J'en trouve pas toujours non plus, parce que on est encore dans des répartitions où les rubriques dites dures sont souvent squattées par les hommes et des rubriques plus légères qui donnent moins souvent l'occasion de faire un édito sont parfois plus féminines. On va pas laisser tomber.
Merci beaucoup, Éléonore Soulcerre, pour ce moment et ce retour d'expérience très concret dans votre rédaction au Temps en Suisse. À bientôt.
Je vous en prie. Au revoir.
Vous écoutez toujours l'atelier des médias de RFI et si vous êtes un observateur averti du monde des médias, vous aurez peut-être noté que cela bouge beaucoup en Suisse dans ce secteur. Par exemple, Le Temps, dont on vient de parler, a été racheté en fin d'année dernière par la fondation Aventinus au groupe Ringier Axel Springer. Cette fondation a aussi racheté un site d'information très dynamique nommé ID News. Tout cela fait que les rédactions du Temps et d'ID News vont avoir des synergies dans les semaines et mois qui viennent. J'ai le plaisir d'avoir en ligne Sarah Sermon-Dada. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la responsable du flux science chez ID News et j'aimerais que l'on parle ensemble du ID Gender Tracker qui mesure la proportion de femmes citées sur votre site. Cet outil a bénéficié du soutien financier de la Google Digital News Initiative en 2019. Expliquez-nous ce qu'est le Gender Tracker.
Oui, très volontiers. Le Gender Tracker, en fait, il se base sur un algorithme qu'on appelle ça du deep learning, où en fait, il va chercher dans le texte où sont les citations et où est la personne qui est à l'origine de citations. Je vais revenir très rapidement sur le calendrier du projet. Donc, on a eu le financement de Google DNI a été confirmé en 2019. En 2020, on a eu une phase un peu participative, car on parle souvent de l'apprentissage des algorithmes, en particulier avec le deep learning. Et pour ça, du coup, on a fait travailler nos lecteurs, en fait. On leur a demandé d'aider l'algorithme à apprendre à correctement regarder dans une phrase qui parle, où est la citation. Donc ça a duré quelques mois au printemps 2020, plutôt à l'été 2020, je crois qu'on a lancé en juin. Ensuite, à l'automne 2020, on a pu faire les premiers prototypes. Et du coup, notre objectif en 2021, c'est d'avoir un dashboard qui permet d'accéder à nos chiffres mensuels en toute transparence.
Très concrètement.
Je dois dire aussi que le projet est en open source aussi. Hein, donc bon, pour l'instant, le code source de l'algorithme en tant que tel, il est déjà dispo sur GitHub. Et à terme, le dashboard sera également réplicable par tout le monde.
Le dashboard, c'est le tableau avec l'idée, effectivement, de jouer au sein de la rédaction et que toutes les équipes et tous les journalistes travaillant dans la rédaction puissent avoir un regard sur ces productions et donc la place des femmes dans chacune de vos productions. Concrètement, cet algorithme, vous disiez qu'il est intelligent et que donc il scanne des textes. L'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir vous déterminer si un prénom est un prénom féminin, un prénom masculin et que l'algorithme tout seul puisse déterminer et trouver les prénoms dans un texte ?
Alors effectivement, là, on est forcé de se baser sur des règles assez claires. On s'est rendu compte en faisant les premiers tests que, notamment, il avait du mal avec les prénoms composés, certains titres honorifiques, certains prénoms étrangers, certains noms historiques. Par exemple, si on va parler de Galilée, de Darwin, de Planck, certains pseudonymes. Bon, c'est des petites choses qu'on est en train de régler au fur et à mesure. Après, je dois quand même dire que Bon, on parle d'intelligence artificielle, en fait c'est plutôt du machine learning, hein, mais tout ça, ça sert à rien si on n'implique pas les gens en fait. On le fait avec un algorithme parce que c'est beaucoup plus simple que de tout revérifier à la main, mais dans les faits, ça peut aussi être utile de vérifier ce qu'on fait à la main. Pour l'instant, on le fait pas encore, on s'amuse pas à compter le nombre de femmes ou d'hommes qu'on cite dans chaque article. Pour vous donner un exemple, on a la BBC qui travaille depuis plusieurs années sur ces sujets d'égalité, qui sort tous les ans un rapport qu'ils appellent 50-50, avec des partenaires médias. Ouais, on a été partenaire de cette année. Et en discutant avec la coordinatrice de ce projet à la BBC, elle m'a dit, elle, que la BBC vérifie manuellement tous les chiffres, en fait. Donc les équipes doivent reporter le nombre de personnes citées par genre, en plus de ce que fait peut-être éventuellement un algorithme. Et ça, je trouve que c'est une réflexion assez intéressante. Elle m'expliquait que dans certaines rédactions, notamment le Financial Times, qui est quand même typiquement plutôt masculine par les sujets très économiques, business abordés, ils avaient au départ, si je me souviens bien de ce qu'elle m'avait dit, ils avaient au départ mis des choses un petit peu technologiques, comme un bot sur Slack, un outil de messagerie, pour communiquer automatiquement sur les chiffres de la parité. Et apparemment, ça n'avait pas forcément été très bien reçu en interne. Et là-dessus, je suis assez d'accord. Finalement, il faut faire attention à ce que l'intelligence artificielle, entre guillemets, n'élude pas l'intelligence humaine. Il faut discuter de ces chiffres. L'enjeu d'avoir ce dashboard, c'est de pouvoir discuter de ces chiffres en interne et de pouvoir embarquer tout le monde. Parce que le tout, c'est pas de dire il y a un algorithme qui compte ou il y a une personne responsable, ça fonctionne dans un coin, on n'y pense plus. Le but, c'est quand même de réfléchir collectivement à ce qu'on fait.
Justement, est-ce qu'il y a une personne qui est en charge de cela chez vous ? Est-ce que vous faites des réunions régulières, collectives, sur ce sujet-là pour essayer de faire mieux la semaine qui suit ?
Alors, pas encore. Néanmoins, avec la fusion des réseaux sociaux actuellement en cours de Heidi et Le Temps, on souhaiterait relancer des groupes de parité qui pourraient, en fait, qui pourraient un petit peu organiser des ateliers sur ces questions-là pour les personnes intéressées. Après, le projet, c'est moi qui le coordonne en interne. Je suis identifiée comme telle. Et je dois dire que comme dans toutes les rédacs, on a des discussions sur les enjeux de société. Est-ce qu'il faut de la discrimination positive ? Est-ce qu'il faut des quotas ? Faut pas oublier que c'est quelque chose qui est discuté par les chercheuses elles-mêmes, les quotas. J'ai parlé ces dernières années à des chercheuses de très haut niveau qui des fois me disent que elles sont pas pour les quotas parce qu'elles ont toujours peur qu'on les soupçonne d'être arrivées là à cause du quota plutôt que par leur talent et leur travail. Alors évidemment, il y a tout ce soupçon-là de la part de certains journalistes qui est qu'on veut leur imposer un quota, qu'on veut changer leur façon de travailler. Alors, l'objectif, il n'est évidemment pas là. L'objectif reste toujours de favoriser la meilleure personne possible pour l'article. Et en particulier quand on est un média qui mise surtout sur la science, la santé et les technologies comme le nôtre. Néanmoins, c'est important d'avoir des chiffres quand même pour savoir dont on parle. Donc voilà, je pense que le Gender Tracker, c'est une façon de lancer la conversation de manière générale.
Merci beaucoup, Sarah Sermon-Dada.
Merci.
Et je rappelle votre site id.news, dont vous êtes la responsable du pôle science. Je vous dis à bientôt dans l'atelier des médias.
Merci.
C'est bientôt la fin de cette émission, place à Mondoblog Audio qui donne chaque semaine à entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. La mondoblogueuse malgache Lala Arignaina s'est interrogée sur la notion d'égalité femmes-hommes et sur la parité à l'occasion d'un voyage à Dakar, au Sénégal. Elle y a rencontré Abdoulaye, Yacine et Awa, avec qui elle a discuté des rôles dévolus à l'homme et à la femme dans la société.
Les questions relatives à l'égalité femmes-hommes ne sont pas perçues partout de la même façon. À l'occasion d'un voyage au Sénégal, je me suis rendu compte que la notion d'égalité n'est pas une évidence ni une priorité pour tous. À Dakar, j'ai rencontré Abdoulaye, Yacine et Awa, tous trois de confession musulmane. En discutant avec eux, j'ai compris que même si l'époque actuelle crée des changements, le Coran reste la base du fonctionnement de la famille. Les femmes sont au service de leur mari et de leur famille, elles s'occupent principalement du foyer. Les hommes, eux, se chargent de confort matériel et financier de la famille. Quand j'ai évoqué le mot parité, Abdoulaye n'a pas très bien compris le terme. J'ai expliqué qu'il s'agit d'égalité entre les deux sexes. Abdoulaye est resté méfiant. Pour lui, l'homme est roi. Les femmes ne doivent pas chercher à surpasser l'homme ni à prendre des décisions. diriger et décider, et le rôle des hommes. Yacine partage l'avis d'Abdoulaye, la femme doit s'occuper de la maison. Elle insiste sur le fait que la femme occupe un rôle très important dans le foyer. Vis-à-vis de la société, si tout va bien à la maison, c'est grâce à la femme. Et si le mari n'est pas heureux, c'est la femme qu'on pointera du doigt. En tant que femme, elle est très fière de ce rôle important qu'elle remplit et qu'elle veut assumer. Pour Awa, la lutte pour la parité est une vue de l'esprit. Pour elle, chacun a son rôle et doit le garder. Elle a quand même décidé de divorcer de son mari qui était parti à l'étranger. Au sujet de la polygamie, je lui ai demandé si elle était d'accord qu'un homme ait jusqu'à 4 femmes. Elle dit que c'est difficile à vivre à cause de la jalousie, mais elle l'accepte pour respecter le Coran. Elle était la seconde femme de son ex-mari et elle avoue que c'était un peu tendu à la maison. Alors, elle aimerait bien se remarier à un homme qui n'aurait qu'une femme. Si les hommes ont droit à plusieurs femmes, est-ce que ça ne devrait pas être pareil pour les femmes? Pour tous les trois, il n'en est pas question. La majorité des musulmans se base sur l'islam dont les règles de vie sont très respectées par les deux sexes. En Afrique, les traditions et la religion influencent directement la vie de chacun. Mais à côté de cette réalité, de nombreuses féministes africaines s'expriment haut et fort sur les réseaux sociaux pour dénoncer une société trop patriarcale. Aujourd'hui, l'Afrique fait de plus en plus le grand écart entre fidélité à la tradition et désir d'émancipation.
Mondoblog.org.
C'était la malgache Lala Reignaïna du blog Ampela Miblaogi à retrouver sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission. Merci à Simon de Creuse qui, comme chaque semaine, en a assuré la réalisation. Camille Deloche a piloté Mondoblog Audio. L'atelier des médias est disponible en version longue sur toutes les plateformes de podcast. Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict, TuneIn ou encore Apple Podcast. Mais aussi, évidemment, sur les applications de RFI et sur l'application Radio France. Si vous aimez cette émission, donnez-nous la note maximale sur ces applications et postez des commentaires, cela nous permettra d'être visibles et donc encore plus écoutés. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.